Bernard Boissy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Dayalu Passerelle, alors cette association qui aide les personnes au Népal, ce petit pays coincé entre l'Inde et la Chine.
Tout à fait.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé au Népal, en deux mots, pourquoi ce pays plus qu'un autre ?
Alors pourquoi le Népal ? Découvert en 1996 lors d'un trek autour des Annapurna. Et comme c'était un trek avec bivouac autour des villages, ça a permis de vivre au plus près des populations et découvrir les montagnes. Et vraiment, il y a eu un coup de cœur. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui est l'ordre du vibratoire. Je me suis dit, waouh, là, tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et depuis, l'amour du pays est resté là, qui a donné l'envie d'aider ces populations.
Alors, parlez-nous un petit peu du Népal, Bernard Boissy. C'est un pays qui a beaucoup souffert. Hein. Il a eu effectivement un gros tremblement de terre. Il a eu presque une guerre civile, on peut le dire. Vraiment beaucoup de perturbations, beaucoup de pauvreté. C'est un des pays, je crois, le plus pauvre au monde. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu, qu'on s'imagine ce pays qui est loin de nous, mais qui pourtant a besoin de nous ?
Alors, le Népal, donc petit pays, mais avec des différences énormes déjà de par le relief. Le sud de l'Inde est très bas et de l'autre côté, on a l'Himalaya avec donc des reliefs différents, des climats différents entre le nord et le sud, des populations différentes parce que dans le sud, on est plus sur des populations influence indienne alors que dans le nord, dans l'Himalaya, on va des populations influence tibétaine. Les cultures, il y a toute une variété, je dirais, de culture et de tradition philosophique, voire religieuse, dans la mesure où il y a de l'hindouisme, il y a du christianisme, il y a de l'islam, il y a du jain,
pardon. Du bouddhisme aussi.
Du bouddhisme aussi. Donc toutes ces influences font que tout se passe bien. De ce côté-là, il y a une tolérance entre les populations. Par contre, c'est vrai qu'au niveau politique, il n'y a pas forcément cette unanimité. Il y a eu et il y a toujours beaucoup de corruption, ce qui a généré malheureusement les événements de ces dernières semaines qui ont occasionné plus de 70 morts, et entre autres dans les jeunes générations. Pour l'instant, rien n'est réglé. La situation est bloquée. Ça va sûrement évoluer, mais il y a beaucoup d'incertitudes et personne ne peut se prononcer et quant au devenir de l'avenir. Mais le pays reste très attachant de par la beauté des paysages, de par la philosophie, de par la gentillesse des personnes, l'accueil qu'il y a. Or, c'est sûr que dès l'instant que vous allez dans des villages, il y a un accueil qui est beaucoup plus humain et chaleureux que dans Katmandou, qui est comme dans toutes les villes du monde, une ville dépersonnalisée, polluée, où chacun court après tout et rien, et où la relation humaine n'est pas aussi humaine et fraternelle qu'on peut trouver dans les montagnes.
Votre aide, donc, elle se focalise surtout sur les montagnes, justement, puisque vous distribuez des couettes plutôt dans les petits villages. Vous-même, vous y êtes allé au Népal, vous avez senti que le besoin était là, et on peut aider les populations, l'aide humanitaire est la bienvenue.
Alors, tout à fait. Personnellement, j'y suis allé à 6 reprises, et autant dans la vallée de Katmandou, mais surtout dans les montagnes. Et on se rend compte dès l'instant qu'on va dans des villages de haute montagne où il n'y a pas de piste, il n'y a pas de route, même s'il y a Internet, mais il n'y a pas des moyens de communication routiers, on va dire. Les besoins sont toujours très importants. Et la seule solution, ce sont des petites structures comme nous qui peuvent les apporter. Parce que les grosses structures internationales sont de première qualité dès l'instant qu'il y a des événements très graves, comme ce fut le cas avec le tremblement de terre de 2015, mais indépendamment de leur action première sur des gros sites, Katmandou et autres villes, Patan, Bhaktapur, elles ne vont pas forcément dans les petits villages, et ce sont nous, les petites structures associatives, qui pouvons apporter des solutions très précises de par la connaissance du terrain que des correspondants peuvent avoir sur place. Et notre ami et correspondant unique, M. Alain Laville, vit au Népal depuis 26 ans, donc il a une excellente connaissance du terrain, des contacts précis, sérieux. Jamais il ne donne de l'argent à une tierce personne, c'est lui qui initie, gère de bout en bout tous les projets, qui donne une totale sécurité et fiabilité. Sinon, notre association Dayalu Passerelle n'interviendrait pas au Népal.
Alors, quelles sont vos actions concrètement, Dayalu Passerelle ? Comment est-ce que vous aidez les populations au Népal ? Parce que souvent on dit aider, mais c'est un mot très vaste. Comment on fait pour concrètement aider une population ?
Alors, pour aider les populations au Népal, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de projets potentiels. Après, c'est toujours une source de difficultés quant à trouver des financements. Comme nous sommes une petite association récente, créée en 2021, notre propos, c'est d'agir au plus près des besoins des locaux. Et sur place, nous avons un ami qui vit au Népal depuis 26 ans, qui est marié, père de famille, et c'est lui qui initie et gère tous nos projets. Là, comme nous sommes petite association, donc des financements qui sont réduits, nous finançons des couettes. Alors, des couettes, certes, on peut se dire à quoi ça sert. Ben, tout simplement, les hivers dans l'Himalaya sont très froids, et les villages perdus dans les montagnes ont beaucoup souffert du tremblement de terre de 2015, et de fournir des couettes, eh ben, c'est permettre à des populations, hommes, femmes, enfants, vieillards, de passer un hiver au chaud. Donc financer des couettes, c'est les aider vraiment, c'est un projet concret et qui se renouvelle une troisième fois et qui apporte de grands résultats parce qu'il y a de la demande, Alain a de la demande par les contacts qu'il peut avoir par-ci par-là.
Comment vous faites alors pour distribuer ces couettes? Est-ce qu'elles sont acheminées depuis l'Europe ou bien est-ce qu'elles sont fabriquées sur place? Comment ça se passe?
Alors, les couettes sont fabriquées à Katmandou. Alain, après différentes démarches, a trouvé donc un fabricant et fournisseur, ce qui fait qu'en fonction de la quantité, et bien sûr, il peut négocier un prix. Pour un exemple, l'an passé, 600 couettes ont été fournies dans des villages. Donc Alain voit avec le fabricant et fournisseur quel type de produit pour avoir un produit de qualité, pas un produit premier prix, vraiment un produit de qualité. Couettes livrées dans une houe, ce qui permet indépendamment de la période durant laquelle il n'y a plus besoin de se protéger du froid, la couette est protégée. Quand le jour de la livraison est prévu, donc tout ceci est acheminé en camion, arrivé dans le village donc qu'Alain a précédemment identifié avec les autorités locales, les personnes sont nominativement référencées par les autorités locales, ce qui fait qu'avec Alain et sa famille, reçoivent les personnes une par une. Chaque personne a une couette et à chaque couette, une personne qui est rayée sur la liste, ce qui permet plutôt que d'arriver de déposer toutes les couettes et chacun se sert, que vraiment les personnes qui sont dans le besoin reçoivent les couettes pour passer l'hiver.
Donc on le voit, c'est vraiment une aide personnalisée. La distribution se fait de façon correcte et précise. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien et que les personnes sont vraiment aidées derrière.
Voilà, tout à fait. Le fait d'avoir cette personnalisation offre une optimisation de la sécurité et de la réalisation du projet. Parce qu'arriver dans un village, déposer et servez-vous, bien sûr, ce seraient les plus forts qui après revendraient, que là, chacun, même des petits-enfants qui repartent avec leur couette, ils servent ça comme si c'était un trésor. Ça permet vraiment d'avoir une satisfaction de la réalisation et d'aboutissement du projet.
Donc on peut donner en toute confiance. Alors justement, comment on peut faire pour vous aider? Vous avez un site internet, www.dayalupasserelle.org. De quoi avez-vous besoin?
Alors, comme beaucoup d'associations, nous avons besoin, bien sûr, de trésorerie parce que c'est la trésorerie qui est la base minimum de la réalisation de nos projets. Pour donner une idée du financement de notre action présente, 15 euros pour une couette fabriquée, livrée dans les villages à Katmandou. Comme nous sommes association humanitaire loi 1901, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt de 66% du montant du don, à savoir 15 euros la couette, 9 euros de crédit d'impôt, la couette revient à 6 euros. Donc ça permet de joindre l'avantage fiscal pour vous, mais surtout, in fine, une personne sur le terrain aura chaud grâce à vous. Donc 15 euros, c'est pas grand-chose, on dépense beaucoup à droite ou à gauche. 15 euros dans cette période de fin d'année, ça peut permettre à une personne dans le Népal d'avoir chaud cet hiver. Et d'imaginer que votre geste ou offre un confort à une personne, ça peut apporter ce petit plus, ce baume au cœur qu'on a fait une bonne action.
Donc dayalupasserelle.org, c'est le site internet. On peut aussi vous écrire si on veut envoyer un chèque directement. C'est à l'ordre de Dayalupasserelle.
Le chèque à l'ordre de Dayalupasserelle. L'adresse 20 chemin Mastouloussia, 64 990 Saint-Pierre-d'Irube. 20 chemin Mastouloussia, 64 990 Saint-Pierre-d'Irube. Un reçu fiscal vous sera envoyé en retour.
Merci beaucoup Bernard Boissy pour ce petit clin d'œil du Népal. C'est loin de chez nous, mais on voit que grâce à vous, ça, il se rapproche et on est là pour vous aider aussi. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.